Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Radio Foot International, ravi de vous retrouver en cette semaine de rentrée pendant que la dame prend ses aises et prépare son cartable. C'est promis, elle sera là demain avec un mot d'excuse signé par ses parents. Avec elle d'ailleurs, je vous le dévoile, c'est un secret de polichinelle, il sera largement question du tirage au sort des quarts de finale des Coupes d'Afrique des clubs qui s'est déroulé hier. Revenons en attendant à nos moutons, et j'en ai de beaux autour de moi, pas vraiment des perdreaux de l'année mais des gens compétents, enfin on va le vérifier quand même bien sûr. Cela ne vous concerne pas, mon toujours jeune et échevelé Réfé. Bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au programme, la Liga, un championnat déjà survolé après trois journées par les meilleurs ennemis que sont le Barça et le Real. Trois matchs, trois victoires pour Blaugranas et Merengue, bien aidés chacun par deux buteurs français. Karim Benzema, banni des Bleus mais libéré par le départ de Ronaldo, quatre buts en trois journées. Ousmane Dembélé, deuxième joueur le plus cher de l'histoire. Une saison dernière gâchée, une Coupe du Monde au second plan, mais un début d'exercice 2018-2019, Tony Truant. Ça vous parle, Bruno Constant ?
Un peu, oui. Bonjour.
Bonjour à vous. Nous parlerons également du début de saison plus brouillon de l'Atlético Madrid, d'Antoine Griezmann, l'homme aux trois trophées glanés ces trois derniers mois. Ah tiens, il n'est pourtant pas sur la liste des finalistes à The Best. La FIFA préfère des joueurs qui brillent au sein de l'UEFA. C'est étonnant, monsieur Moati, Étienne.
C'est surtout inquiétant, à quelques semaines du Ballon d'Or.
On a bien fait de vous inviter en tout cas. Coup d'œil en Italie également, pour parler de la Juventus de Turin, seule en tête après trois journées, sans que sa recrue phare ne réussisse, elle, une belle entame. Cristiano Ronaldo, toujours muet après trois matchs. La Juve, qui met déjà très loin ses challengers, notamment Naples, entraîné par Carlo Ancelotti, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, et nettement dominé par la Sampdoria de Gênes dimanche. Et puis cette semaine de rentrée, eh bien, nous allons aussi parler de celle des Bleus, champions du monde, qui seront à nouveau sur le pré cette semaine avec cette nouvelle usine à gaz concoctée par les Manitou du football circus, la Ligue des Nations, Allemagne et Pays-Bas au programme de la bande à Dédé. Est-ce que cela vous inspire, Dominique Sévrac?
Ah oui, avec plaisir. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour. The Best, c'est Étienne Moati, on l'a le The Best français quand même.
Ah, bon, t'as quand même fini par le reconnaître,
on va le cuisiner. C'est bien. Allez, Radio Foot, c'est parti. Chef d'orchestre Guillaume Ploquin, générateur d'idées David Finzel. Et puis tiens, quitte à parler des copains, un petit coucou avant de commencer à la rédaction du site Africa Top Sport, basé à Lomé, orchestré par un dénommé Steven Lavon. Je les sais à l'écoute chaque jour. On a même eu l'occasion de parler de vous, messieurs, récemment. Ils ont leur chouchou, ils ont ceux qu'ils aiment bien. Bon, enfin, ils sont fidèles au poste, et s'ils le sont encore en ce moment, on vous dit bonjour. La Liga donc, sans surprise, le Barça et le Real qui caracolent. Trois matchs, trois victoires, 12 buts marqués par les Catalans. 8 ce week-end carrément face au promu Huesca, pour 2 encaissés seulement par Barcelone. À peine moins pour le Real qui en marque 10, qui en encaisse 2 aussi, dont 4 par Karim Benzema. Tiens, on l'écoute.
Asensio por la banda izquierda, al centro, al punto de penalti. Oh! No. Ha pitado. No sé si fuera de juego, creo que no, sino falta de Benzema. Gareth Bale con Marcelo, Marcelo para Karim Benzema, la media vuelta, Karim Benzema, que balón acaba de poner para Luka Modric, la pared va a disparar.
Les débuts du week-end donc de Karim Benzema, ça fait 4 en tout, quasiment autant que la saison dernière. Vous savez en Liga combien il en avait marqué la saison dernière, Karim Benzema?
8 ou 9
8 ou 9. Je crois qu'il avait marqué 12 buts en tout dans sa saison, Karim Benzema.
C'était
Ligue
pas terrible,
champion,
c'était
Liga
pas sa
compris.
Meilleure saison non plus. Ouais.
Liga 5 ouais. Après 38 journées, et là il en est à 4. Ça lui réussit, la France championne du monde. Karim Benzema.
C'est perfide. Hein.
C'est sa 10e saison. Hein. J'ai noté une stat pour qu'on pose quand même, ça vous pose le bonhomme. Après on ira voir François David en Espagne, mais 131 buts il a marqué en tout depuis 10 saisons au Real. Il a marqué contre les 33 équipes contre lesquelles il a joué en Liga.
Il y a un nombre de passes décisives aussi très importante. Ouais. Très important. Pour moi, c'est à la fin du mythe que Karim Benzema était au service de Cristiano Ronaldo et qu'il ne pouvait jouer que dans l'ombre du grand Ballon d'Or. Pour moi, Karim Benzema, ça a toujours été un attaquant qui sait tout faire. Alors, c'est pas forcément le devant le but qu'il est le meilleur. Parfois, il arrive donc de faire des saisons à 5 buts en championnat. Effectivement, c'est pas terrible. Mais il peut vivre indépendamment de Cristiano Ronaldo. Et il va le prouver tout toute la saison, parce que le Real va continuer à faire du jeu, avoir des occasions, et tout ce que Cristiano ne mettra pas, bah, avec Bale, avec d'autres, avec Isco, avec Asensio, ils se partageront le magot.
Etienne?
Moi, je suis beaucoup moins sûr que ça du fait que Benzema n'a pas besoin de Ronaldo et que surtout le Real Madrid n'a pas besoin de Cristiano Ronaldo et qu'il peut s'en passer quand même extrêmement facilement d'après ce que tu viens de m'expliquer.
Non, ça, j'ai pas dit ça. J'ai parlé de Karim Benzema.
Oui, mais qu'avec les uns et les autres, qu'avec Bale et
consorts,
ils vont se partager le magot et donc enfiler le nombre de buts que mettait Ronaldo. Je pense que Karim Benzema, c'est un grand attaquant. Je pense que Karim Benzema, il a toujours de très bonnes périodes et il a aussi des périodes de disette importantes toujours dans une saison. Et donc à ce moment-là, qui sera susceptible de prendre le relais? Je pense que c'est un vrai problème pour le Real. Quand on perd Cristiano Ronaldo et qu'on gagne en échange Mariano, donc on a vu avec Lyon, qui est un joueur intéressant, mais à mon avis limité quand même techniquement pour jouer avec le Real, forcément dans la saison, il y aura un problème.
Ce sont ceux qui sont à ma droite qui ont parlé. Je me tourne vers ceux qui sont à ma gauche. Réfé, on vous prend en dernier, bien sûr. Imaginez bien. Bruno Constant.
J'ai pas compris pourquoi ça fait tomber le mythe que Benzema est dans l'ombre.
Parce que
au contraire, moi je trouve que ça justifie ce qu'on disait pendant des années, c'est qu'il était au service de Ronaldo et que maintenant il est plus au service de Ronaldo. Il montre que c'est un grand attaquant, que c'est un grand buteur, qu'il est à droite devant le but, que c'est peut-être sacrifié. Là, je suis d'accord avec toi, Dominique, qu'il s'est peut-être un peu sacrifié pour Ronaldo et pour le bien du collectif du Real Madrid. Et que là, je pense qu'on va retrouver le Benzema qui claquait en Ligue 1 et qui est capable de faire une saison à 30 buts en championnat cette saison. Parce que c'est un joueur, on le reconnaît, c'est un joueur magnifique, c'est un super attaquant, Benzema.
C'est cette phrase-là que je supporte plus, j'ai entendu pendant des années. Il est au service de Cristiano Ronaldo.
Mais il était, quelque part, il était.
Mais
il était intelligent de faire.
C'est l'histoire du journaliste.
Réfé.
Je pense que effectivement aujourd'hui le Real a changé quand même sa manière de jouer. C'est une équipe qui est beaucoup plus tournée vers la possession, qui est moins verticale qu'avant, et l'absence de Ronaldo y est sans doute pour quelque chose. Donc quelque part, des départs de Cristiano Ronaldo, ça modifie la donne pour tous les joueurs et notamment pour ceux qui sont à vocation offensive, dont Benzema, qui peut-être profite un peu mieux de la richesse de sa palette avec ce système de jeu. Après, je suis pas sûr que le Real, on est au début de saison, on a fait face à des équipes qui n'étaient pas forcément exceptionnel, mais il faudra le voir un peu sur la durée et face à des adversaires plus costauds.
Allez, filons en Espagne, retrouver, parce que quand on parle du Real, c'est intéressant d'avoir un type qui vit à Barcelone. François David est avec nous. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors il a beau vivre à Barcelone, il est d'abord un observateur de la Liga et également donc du Real. J'ai fait exprès de faire un tour de table, François, pour parler de Karim Benzema et évidemment spontanément tout le monde a parlé de Cristiano Ronaldo et vous aussi vous l'aviez préparé hein, cette affaire-là. Vous me dites dans nos échanges du jour, le départ de Cristiano Ronaldo a facilité la prise de responsabilité des deux joueurs stars parce qu'il y a aussi Gareth Bale.
Il y a Gareth Bale, il y a Marco Asensio, il y a Isco. Bon, tous ces joueurs-là sont des joueurs internationaux qui peuvent prendre le relais de Ronaldo. Alors, je suis d'accord avec Étienne Moati, c'est vrai que on va voir le Real Madrid dans les grands matchs, en fait. Dans les grands matchs où Ronaldo mettait le pied, mettait un retour acrobatique, mettait une tête. Ronaldo a quand même marqué 10 buts en passé en Ligue des Champions. C'est là, je pense, qu'on va voir l'impact ou non de Ronaldo sur la saison du Real Madrid. Alors, le début, c'est vrai, est idyllique pour le Real Madrid. Je regardais, Benzema, en fait, n'a jamais fait une saison à 30 buts hein, dans une saison, dans un championnat. Le maximum, c'est 24 avec le Real en 2015-2016. Donc, il sait marquer des buts, évidemment, Benzema. Il va falloir voir maintenant comment est-ce qu'il gère toute cette pression médiatique, parce que c'est vrai que depuis 10 ans, il était quand même dans l'ombre de Ronaldo au niveau médiatique. Là, tout le monde ne parle que de Benzema et de Gareth Bale. Alors, c'est 4 buts en Liga pour Benzema, c'est 3 pour Gareth Bale. Donc, ils ont marqué quand même 7 buts sur les 10 marqués par le Real Madrid depuis 3 journées. Le Real Madrid donne une bonne idée. Bruno disait, ou Alejandro disait justement qu'ils sont beaucoup plus dans la possession, dans la création d'occasions, beaucoup moins dans la contre-attaque. Mais pour l'instant, ça donne un ensemble cohérent. Julien Lopetegui et tous les joueurs parlent d'une famille désormais. Ce mot-là, famille, on ne l'a pas entendu depuis 5-6 ans au Real Madrid. Et depuis que Ronaldo est parti, on a l'impression que c'est un peu le papa qui est parti et que désormais, le Real Madrid ne parle que de famille, il faut rester soudé, on va jouer ensemble, on va réussir ensemble et on va perdre ensemble. Donc on va voir, mais c'est vrai que le début de Benzema dans un rôle beaucoup plus central, beaucoup plus responsabilisé est super intéressant et ça confirme que c'est plus qu'un passeur, c'est évidemment un buteur.
ça peut être effectivement libérateur. On peut imaginer ce départ-là. On sait tout ce qu'apportait Cristiano Ronaldo. On sait combien il était décisif dans les grands matchs. Est-ce que voilà, ce départ, finalement, on a cette impression qu'il libère un peu des joueurs qu'on fait notamment la saison dernière, une saison très moyenne.
Moi, j'ai pas cette impression-là et j'ai pas le sentiment que Benzema était inhibé par la présence de Cristiano Ronaldo. Je pense que c'était un complément idéal à Cristiano Ronaldo, comme Ronaldo était un complément idéal à Benzema, et tout ça fonctionnait finalement très bien. La preuve, ils ont gagné 3 Ligues des Champions, ils ont gagné des titres de champion d'Espagne, et ils faisaient peur dans les grands matchs. Est-ce qu'ils feront aussi peur que dans les grands matchs sans Cristiano Ronaldo? J'en suis pas sûr. Et quand on dit que le Real mise complètement sur Benzema, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui ils n'ont que lui comme grand attaquant devant. Ils ont quand même essayé de faire Lewandowski, ils n'ont pas réussi. Ils ont regardé aussi pour faire Neymar, ils n'ont pas pu. Harry Kane à Tottenham s'était bloqué, et donc ils repartent aujourd'hui en fin de mercato, comme je disais tout à l'heure, en prenant Mariano, qui est un joueur moyen. C'est bien aussi la preuve que ils n'ont pas réussi à faire un grand attaquant, et que s'ils avaient pu le faire.
Mariano, c'est un peu le Choupo-Moting.
C'est le Chicharito Hernandez qui avait il y a quelques années en doublure. La concurrence, il l'a toujours évincé, Karim Benzema. Il a même eu Higuain, qui aujourd'hui est à l'AC Milan, mais il a toujours, même quand c'était de la vraie concurrence, Higuain c'était quelque chose, Hernandez c'était rien, et Mariano c'est rien. Comme l'a dit Étienne, c'est un joueur très limité, qui a du mal à jouer dans le petit jeu, à combiner avec les autres.
Oui, Morata aussi,
il a toujours évincé la concurrence, mais c'est vrai que sans Cristiano Ronaldo, si je me suis mal fait comprendre, c'est une perte considérable pour le Real Madrid. Ils vont avoir beaucoup de mal dans les grands rendez-vous, dans tous les matchs qu'il a débloqués, par des ciseaux, par sa présence.
Ça, on ne le sait pas encore, ça.
C'est impossible qu'il manque des ballons aussi.
Il demande des ballons aussi. Le fait qu'il soit parti va augmenter la responsabilité de chacun un petit peu.
Bruno, c'est ce qu'a perdu cette équipe. Évidemment. Ronaldo, Zidane, voilà, il y avait quelque chose qui était.
Là, on parle de joueurs humains.
Là, tout d'un coup, on a Lopetegui, on n'a pas de renfort,
Moi, je suis pas d'accord avec l'idée que sur ces dernières saisons, Ronaldo aimantait tous les ballons au Real Madrid. C'était plus son jeu. Ronaldo, il y avait beaucoup de matchs du Real où finalement, on le voyait assez peu et il ne réclamait pas en permanence le ballon comme il le faisait au début de sa carrière. Et finalement, on se rendait compte à la fin des matchs qu'il avait marqué 2 buts. C'était les dernières saisons de Cristiano Ronaldo au Real, c'était à peu près ça. Donc moi, j'ai pas le sentiment qu'il inhibait les autres, qu'il les gênait donc pour exister. Mais en tout cas, ce dont je suis persuadé, c'est que le Real perd un joueur qui était Ballon d'Or, un joueur qui était le meilleur joueur du monde avec Lionel Messi et qui marquait dans une saison entre 40 et 50 buts.
Mais je pense qu'il y a un vrai souci, c'est que le Real Madrid, bon, on a l'impression qu'il dominait le monde parce qu'il gagnait les Ligues des Champions, mais la Ligue des Champions, ça reste une coupe avec quelques matchs dans l'année, mais dans l'ensemble, le Real Madrid n'était pas si dominateur que ça, même avec Cristiano Ronaldo. On a vu les derniers championnats, c'était quand même très laborieux. Ils n'ont pas gagné beaucoup de championnats toutes ces dernières années. Donc c'est une équipe qui ne dominait pas outrageusement la concurrence, et aujourd'hui, ils sont affaiblis. Parce que là, Bale n'est pas blessé, alors qu'il est souvent blessé au cours d'une saison. Benzema est au top, mais il ne sera pas au top toute la saison, et il n'y a pas 36 solutions derrière.
Oui, on pensait qu'il ferait Eden Hazard aussi cet été. Oui, on pense qu'ils ont gardé l'argent pour Neymar. Et si par exemple Neymar finit par se plaire à Paris, c'est un calcul un peu dangereux.
Ils ont eu un été très décevant, j'imagine, pour leurs supporters. Il y a eu des départs, il y a eu tout ça. Maintenant, quant à dire, ils n'étaient pas très dominateurs, Réfé, mais gagner quand même 3 Ligues des Champions de suite. Je suis à peu près sûr que vos amis de Barcelone croqueraient volontiers à titre en Liga contre ça.
Je veux dire, c'était quelques matchs dans la saison qu'ils jouaient à fond et qu'ils arrivaient à gagner.
Avec Ronaldo.
Mais sur l'ensemble de la saison, ils n'étaient pas si dominateurs que ça.
On va réentendre, bien sûr, François David, le Barcelonais, mais puis, quitte à être à Barcelone, écoutons donc un autre observateur de la Liga, un jeune qui débute, Messi Lionel.
Même si le Real Madrid est une des meilleures équipes au monde et qu'il a des joueurs en grande quantité, le fait que Cristiano soit parti affaiblit l'équipe et fait de la Juventus un des favoris de la Ligue des Champions.
Si c'est Messi qui le dit, Bruno Constant, il n'y a rien d'autre à ajouter.
De dire que la Juventus fait partie des favoris?
Non, on va en parler après de la Juventus. Mais de dire que le Real Madrid est appauvri.
Mais forcément qu'ils sont appauvris. C'est évident qu'ils sont appauvris en perdant le meilleur joueur du monde. Mais je pense encore une fois que quand une grande star, quand tu dis qu'il aimante pas les ballons, si, il aimante les ballons dans la surface de réparation, parce qu'à chaque fois, c'était c'était lui qui était cherché.
Et heureusement pour eux d'ailleurs, parce que ça leur permet de gagner des titres, ça leur permet à lui de mettre une quarantaine ou une cinquantaine de buts par saison. Je vois pas où est le souci de fait démonter des ballons quand on est le meilleur joueur du monde et qu'on l'a mis au fond du monde.
Tout au niveau des actes, tout était centré avec lui et qu'à un moment donné, les autres prenaient peut-être moins de responsabilités. Là, ils vont en prendre davantage. Et je pense qu'un Asensio qui a un an de plus, c'est meilleur que la saison passée.
C'est pas l'analyse qui est faite.
Le Real
cette saison.
Un Gareth Bale qui sera presque une recrue.
J'étais en Espagne il y a encore quelques jours. C'est pas du tout l'analyse qui est faite par les médias espagnols, donc qui considèrent en effet, comme l'a dit Alejandro, que le Real s'est affaibli évidemment en perdant Cristiano Ronaldo. Ce que dit Lionel Messi aujourd'hui, je veux dire, c'est juste de la sincérité. Il est juste persuadé parce qu'il connaît très bien Ronaldo que à partir du moment où Ronaldo n'est plus au Real, le Real est moins fort. À partir du moment où Ronaldo arrive à la Juve est beaucoup plus forte. Je pense que aujourd'hui on se complique un petit peu les ménages.
Par rapport à ce que tu disais,
ça me paraît tellement évident.
On arrive à dire l'inverse de il y a deux mois. C'est ça qui est incroyable. Le Real Madrid qui est champion d'Europe parce qu'ils ont perdu Ronaldo, ils vont être une équipe qui vont être à la ramasse. Non, je pense pas.
On n'a pas été jusque là, mais qui est une équipe moins forte, j'en suis persuadé.
Mais Bruno, par rapport à la responsabilité des autres, par exemple Cristiano Ronaldo, il a fait une très mauvaise finale de Ligue des Champions.
Exactement.
Et les autres ont pris leur responsabilité.
Donc il n'était pas indispensable.
Notamment Benzema.
Et ils ont gagné. Donc
c'est Bale.
Et Bale.
Donc ça prouve bien qu'ils sont capables de prendre leur responsabilité et d'élever leur niveau et d'élever le niveau du Real Madrid sans Ronaldo.
En finale de Ligue des Champions. Liverpool a joué sans Salah assez rapidement.
D'accord, mais
la
quand
finale avec Salah.
Mais on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a après tout que trois journées, voir le Real remporter ses trois premiers matchs. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. On va parler du Barça. Je voudrais juste vous demander rapidement, en ce qui concerne Benzema et son début de saison, forcément, on pense à l'équipe de France. Je l'ai dit tout à l'heure de manière un peu gomme.
Ça, je pensais pas qu'on y arriverait aussi vite à cette affaire-là.
Et je ne veux surtout pas relancer le débat qui, pour ma part, est clos, mais le vôtre. Est-ce que une belle saison comme ça de Karim Benzema, ça peut relancer éventuellement quelque chose? A priori, non. Je connais Deschamps. Il est champion du monde sans Benzema.
Je ne sais pas prendre ce lancement pour une plaisanterie ou pas. Mais je vous rappelle que Didier Deschamps a re-signé donc à la tête de l'équipe de France pour encore au moins deux saisons.
Le débat existe toujours, en tout cas sur les réseaux sociaux. On peut aller en un clic juste vous demander. Non, évidemment,
l'équipe de France a été championne du monde sans lui et Didier Deschamps de toute façon donc n'a jamais imaginé donc rappeler Karim Benzema en équipe de France. À partir du moment où son équipe est championne du monde, je le vois difficilement aujourd'hui le faire appel à Karim Benzema.
Donc c'est important
même
de
si
signaler
c'est...
à tous ceux qui s'activent
même si Dominique,
sur les réseaux
c'est vrai,
sociaux.
Ouais. Rêve.
Oui, Nabil Djellit aussi sans doute.
J'en rêve, mais ça n'arrivera pas. Etienne a tout résumé.
Bien sûr.
C'est fini depuis l'Euro 2016.
Finalement, la meilleure chose qui pouvait arriver à l'équipe de France,
sa dernière sélection restera à France-Arménie à Nice. Il a marqué un doublé.
Allez, on va se tourner du côté du Barça avec un autre buteur français qui lui est en équipe de France, même si pour le moment on attend un peu mieux de lui. Mais on va parler du cas de Dembélé. On écoute ce qu'il a fait ce week-end.
Dembélé está dentro del área. Dembélé. Gol de Ousmane Dembélé. Balón profundo al interior del área. Corre el francés.
C'est le deuxième plus gros transfert de l'histoire, hein, toujours. Ousmane Dembélé, c'était il y a un an. Il y a eu une blessure, une demi-saison peu convaincante. Une titularisation en Coupe du Monde, c'était face à l'Australie. C'était contre le Danemark, le pire match des Bleus de la Coupe du Monde, non? Ou c'était contre l'Australie?
Mais pour le deuxième plus gros transfert, donc Neymar et Mbappé, c'est pas devant?
Alors c'est peut-être le troisième.
D'accord.
On va aller questionner François David parce que c'est lui qui m'a glissé ça et je vais pouvoir lui taper dessus. Il sera payé deux fois moins. Là, trois buts marqués en début de saison, l'entente avec Messi. Bref, vous avez plein de choses à nous dire de sympathique sur Ousmane Dembélé. On questionnera le réfé après parce que le réfé il est moins emballé lui.
Ah bon. Enfin, écoute, moi je suis assez enthousiasmé par le bon début de Dembélé. C'est vrai que c'était pas évident anticipé. Il a fait un très mauvais mondial, enfin il a pratiquement pas apparu, très mauvaise saison l'an passé. Alors deuxième ou troisième plus gros transfert, effectivement je crois qu'il y a Coutinho qui rentre maintenant dans le.
Oui aussi.
Je me suis un petit peu.
Mais c'est vrai qu'il y avait aussi l'histoire de Mbappé parce qu'il y avait un chiffre plus. Enfin bref voilà. Bon, deuxième ou quatrième, ça reste
techniquement
160 millions.
Techniquement Neymar n'est pas un transfert parce que c'est un rachat de clause, donc vous pouvez même enlever Neymar si vous voulez.
Je n'y comprends rien à ce football.
Bon. Je vous expliquerai.
Bref. Je parle sous l'autorité de Dominique Sévrac, mais si le Paris Saint-Germain avait fait une offre à 110-120 millions pour Dembélé, ce qui avait été envisagé ici en Espagne, à Barcelone, moi je pense que Dembélé partait. Maintenant, pour les questions de fair play financier,
je sais pas où ils auraient trouvé l'argent.
Ouais, voilà.
Mais voilà, donc là il n'est pas parti, et finalement il a pu compter sur un soutien indéfectible qui s'appelle Ernesto Valverde, qui le voulait l'an passé quand Neymar était parti, qui n'a pas changé sa vision des choses, même après le mondial, même après les blessures, même après les polémiques sur Dembélé, son entourage, etc. Lui, il est resté droit dans ses bottes malgré l'arrivée de Malcolm, le Bordelais. Eh bien, il a mis Dembélé titulaire, match de Super Coupe d'Espagne contre Séville. Il a peut-être été le meilleur joueur du Barça ce jour-là. Il marque le but décisif et à partir de là, le déclic pour Dembélé, installé titulaire tous les matchs. Le déclic aussi dans la tête des supporters qui se sont dit bon, ce joueur-là finalement est peut-être pas si mal que ça. Ils se sont rendus compte que c'était un joueur intéressant, jeune, qu'il avait les deux pieds, qu'on avait vendu au départ mais qu'on n'avait pas trop vu l'an passé. Et dans la tête surtout des dirigeants, Eric Abidal en tête, qui était prêt presque à écouter une offre pour Dembélé. Et finalement, finalement il est resté. Et pour le bien du Barça, il est en train de faire un début de saison extraordinaire, Dembélé. Un début de saison, il a tous les ballons, il n'est pas, il prend des prises de décision qu'avant il ne prenait pas, il ne recherche pas systématiquement Messi ou Suarez, comme c'était le cas l'an passé, il peut faire des actions individuelles. Et c'est vrai que sa polyvalence, il peut jouer à droite, à gauche, eh ben, c'est hyper intéressant pour le Barça, à tel point qu'on a oublié Malcolm. Malcolm qui était quand même arrivé pour peut-être le mettre en concurrence. La concurrence n'existe plus, en plus il s'est blessé, le pauvre Malcolm. Mais c'est une très très bonne surprise pour le Barça. Il a pris quand même 5 buts dans les 7 derniers matchs officiels du Barça. Et c'est un joueur qui, je pense, moi, est en train de se faire adouber par le public et par Messi, qui est un point essentiel pour le Barça.
Est-il adoubé par leur effet ?
Oh, je trouve qu'effectivement, il a fait un début de saison très intéressant et qu'il profite bien de la baisse de régime de Suarez, qui n'est pas encore au top. Cela dit, pour moi, aujourd'hui, le Barça a toujours Messi qui est son moteur principal, et le deuxième moteur, c'est Philippe Coutinho, qui monte aussi en puissance. Et je pense que Dembélé s'en sert bien dans tout ça. Il est disponible, et il trouve bien Jordi Alba, il trouve bien Messi, il change de côté, il frappe au but, il ose des choses. Il y a encore pas mal de déchets dans son jeu, mais le progrès est indéniable.
Et du côté de l'équipe de France, Dominique, c'est vrai, donc on l'a dit, il a joué contre l'Australie, c'est pas le match qu'on a préféré de la Coupe du Monde, c'était le premier, c'est pas de chance, puis c'était tôt en plus, bref. Il a plus jamais rejoué. Ici, il a joué un peu contre le Danemark.
Le Danemark, je crois, aussi, un petit peu.
Je suis pas sûr, ouais, Ouais, je suis même pas sûr. Ouais. Je pense qu'il a joué contre l'Australie et qu'on l'a pas revu. Il reste néanmoins, il est champion du monde. Mais en équipe de France, voilà, il y a un système, alors ça va peut-être évoluer.
Pas dans l'immédiat, hein. Didier Deschamps a fait confiance à 22 des 23 champions du monde, parce que Mandanda est blessé. Bon, Loris depuis s'est blessé, et dans le 11 type va pas beaucoup changer non plus dans les prochains mois. Vous allez voir l'attaque avec Mbappé, Giroud, Griezmann, quand bien même Giroud n'a pas beaucoup de temps de jeu avec Chelsea. Mais et donc je pense pas que Dembélé, en plus il n'en a pas assez fait, donc justement pendant ce mondial il a un petit peu déçu Didier Deschamps, hein. Débuter le mondial, c'est quand même une grosse marque de confiance, et elle n'est pas rendue, cette confiance, parce qu'il est passé complètement au travers de son match. Et on sait que mentalement, à l'inverse d'un Mbappé qui lui peut s'accrocher quand il a raté quelque chose, parce que Mbappé aussi a raté le match contre l'Australie, mais il a été là au match suivant contre le Pérou, c'est lui qui marque sur une frappe déviée de Giroud. Voilà, lui, Dembélé, en revanche, on sait qu'il disparaît un peu, c'est peut-être ce qui lui est arrivé la première année à Barcelone, à cause de ses blessures. Il n'a pas du tout le même mental. Il est connu dans le milieu du football pour être peut-être aussi fort que techniquement que Mbappé, mais de pas du tout avoir le même constitution psychologique qui fait qu'Mbappé, il en est là aujourd'hui, c'est l'icône du sport français pour moi, et que Dembélé, ça reste un joueur prometteur.
Oui, mais sa mentalité est en train d'évoluer, parce que on a beaucoup
apprécié, peut-être un peu aussi,
et on a beaucoup apprécié à Barcelone qu'il soit rentré avant la date prévue afin de pouvoir participer pleinement à la Supercoupe d'Espagne. Et d'ailleurs, il a marqué, c'est lui qui a donné la victoire à Barcelone, et tout ça a été extrêmement bien perçu.
Mais la limite pour moi d'Ousmane Dembélé, je suis d'accord sur son début de saison, évidemment que sur les actions individuelles, il peut être flamboyant, et il l'a été sur ce début de saison. La limite, en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu à Barcelone, je pense qu'Alejandro va être d'accord avec moi, c'est sur son intelligence tactique assez limitée, et que pour le jeu du Barça, même si c'est plus le Barça de Guardiola avec une possession de 80%, quand même, ça reste un jeu de possession et quand même, on a besoin d'avoir des déplacements intelligents. On a besoin, quand on est sur un côté, de savoir jouer avec son latéral. Ce sont des choses que Ousmane Dembélé fait très mal au Barça. Il fait ça aussi en équipe de France. Donc, il lui faudra progresser tactiquement énormément, donc, pour devenir un joueur essentiel, indispensable au Barça.
Juste un mot de Bruno sur Ousmane Dembélé. Après, on retourne voir François David.
Non, mais moi, ça me fait penser au cas Anthony Martial à Manchester United, qui était pareil en équipe de France, qui est arrivé pour l'Euro et qui avait déçu dans son attitude Didier Deschamps. Il a complètement disparu. Je sais pas si on va en arriver là avec Ousmane Dembélé en équipe de France, parce qu'il a du talent, il joue au FC Barcelone où il est exposé, et s'il joue régulièrement, forcément, on va parler de lui. Mais je suis d'accord, il lui manque encore quelque chose. Après, c'est logique qu'il soit bon aujourd'hui, après avoir vécu ce qu'il a vécu la saison passée. Ça pouvait pas être pire pour un transfert comme il a vécu, qui était très compliqué, qui a eu une blessure et qui a eu un enchaînement de péripéties où il pouvait pas être au top.
Il fait grève pour partir de Dortmund.
Juste un mot encore, vous ne sembliez pas d'accord, François, là-bas, de l'autre côté des Pyrénées?
Mais je sais pas qui a parlé de juste avant de Dembélé avant Bruno. Moi, je trouve justement qu'il est en train de Étienne. Bon, je suis en train de voir moi qui est en train de combler vraiment peu à peu tous les manques évidemment qu'on avait repéré l'an passé. Je trouve qu'il lâche bien sa balle au bon moment. Il fait pas le dribble de trop. Il combine bien avec Messi. Il sait bien se placer surtout par rapport à Messi avec son latéral droit quand il joue à droite. Il combine très bien avec Sergio Roberto à gauche avec Jordi Alba. Pour moi, il est en train vraiment de progresser à pas de géant. Il sait comprendre l'espace quand il le faut. Il regarde bien. C'était criant lors du dernier match. Alors, c'était contre Huesca, une victoire 8-2. Mais j'ai vraiment été attentif à la relation justement qu'il a avec Coutinho, milieu de terrain. Il anticipait tous les mouvements que faisait Coutinho, toutes les possibilités de passe pour prendre la profondeur. Non, c'est, je trouve moi qu'il a vraiment franchi un palier. Et c'est ça qui me paraît extraordinaire. Ce jeune-là, qui a 3 ans, était quand même un joueur amateur, 3 ans, 3 ans et demi. Et qui là est titulaire au FC Barcelone, je trouve qu'il est justement en train de faire des progrès extraordinaires.
À suivre donc, quelques mots sur l'Atlético, à présent futur adversaire de Monaco en Ligue des Champions. L'Atlético Madrid, 10e après 3 journées, une victoire, un nul, une défaite au Celta Vigo ce week-end. Mais une victoire aussi quand même en ce début de saison, vous le rappeliez Réfé ce matin lorsque nous en parlions, en Supercoupe d'Europe. Donc c'est pas tout à fait un début de saison non plus complètement raté. Rapidement, votre analyse François, il y a eu beaucoup d'arrivées cet été. Diego Simeone qui essaye de s'adapter à son nouvel effectif.
Oui, c'est ça. Bah, tous les postes ont été doublés à l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire qu'ils ont fait un investissement massif. Alors, la plus chère, Thomas Lemar. Et on s'est rendu compte que contre le Celta Vigo, il aurait peut-être dû le faire, mais aucune recrue n'est alignée au 11 de départ de Diego Simeone. Alors, peut-être que Simeone a voulu revenir aux bases, finalement, qui ont fait la force de l'Atlético de Madrid, une bonne défense, une contre-attaque. Force vraiment une identité de jeu très spécifique à l'Atlético de Madrid. Il y a 3 ans, ils avaient essayé déjà de faire évoluer un petit peu le groupe avec des joueurs comme Mandzukic. Et ben, ça n'avait pas pris. Et quand finalement ils étaient revenus aux bases du jeu de l'Atlético, et ben tout était revenu. Il y a une perte très très importante à l'Atlético. On n'en parle pas souvent, mais c'est la perte du capitaine Gabi qui avait marqué d'ailleurs contre l'OM en finale de Coupe d'Europe. C'était l'aboyeur, c'était la personne capable de remettre un joueur dans le droit chemin quand il allait mal, quand il sortait un petit peu de la ligne de conduite du club, et finalement il est parti. Et il n'y a personne pour l'instant qui peut prendre le relais. Godin n'est pas ce joueur. Godin, c'est un joueur extraordinaire, mais c'est pas un aboyeur sur le terrain. C'est plus un quelqu'un dans le vestiaire qui va remonter, mais sur le terrain il n'y a personne. Costa et Diego Costa jouent sur cours alternatif. Heureusement qu'ils ont Griezmann qui reste à son niveau, même si on attend mieux. C'est un début de saison compliqué pour l'Atlético de Madrid, mais avec la qualité de l'effectif, peu à peu, la qualité du coach, ça fait 7 ans qu'il est là, Diego Simeone, ça va revenir dans l'ordre. Et je crains pour Monaco. Eh bien, qu'ils en fassent les frais lors du premier match.
On verra ça, ce sera sur RFI, notamment le 18 octobre.
Septembre.
C'est bien cela, RFI. 18 septembre, pardon, 18 octembre, c'est versant.
18 octobre, Monaco sera déjà éliminé.
Oui. Oh là là, comme il est mauvais. Oui, et puis Paris à Naples le 6 novembre. En ce qui concerne Antoine Griezmann, puisque l'on en parlait, on en parle beaucoup depuis hier, parce que la FIFA a donc décidé de servir l'UEFA dans son prix de best, au lieu de penser aux joueurs qui ont brillé à la Coupe du Monde, on a pensé aux joueurs qui avaient brillé en Ligue des Champions. Je résume, c'est à peu près ça. Est-ce que ça vous choque? L'homme a gagné quand même, Antoine Griezmann, même si individuellement, on l'a moins vu, c'est des performances collectives, mais enfin, il gagne la Ligue Europa, il enchaîne avec la Coupe du Monde, puis la Super Coupe d'Europe.
Et il marque
3 trophées.
Face au Real.
Et il a un rôle d'aboyeur, un rôle prépondérant en équipe de France, on l'a vu pendant toute la Coupe du Monde. Ah bah, très rapidement, chacun, shocking.
Oui, absolument shocking.
On rappelle qu'il y a Modric, il y a Ronaldo
et Salah.
Mohamed Salah. Oui, oui. Choqué et puis étonné surtout parce que la FIFA nous avait habitué quasiment systématiquement une année de Coupe du Monde à récompenser évidemment donc un joueur donc qui a été champion du monde l'été précédent là ne pas être dans les trois sélectionné donc pour se disputer ce titre-là quand on est champion du monde, je vais pas répéter les titres que vous venez d'épeler, mais c'est quand même des titres importants où il a joué lui aussi un rôle important. C'est un joueur d'attaque parce qu'on parle de Griezmann, on pourrait aussi citer par exemple Raphaël Varane qui pourrait aussi prétendre à être dans les trois parce que lui aussi a des titres extrêmement importants, champion du monde, Ligue des Champions. Bon, c'est pas un attaquant, mais Griezmann, franchement, c'est une énorme surprise et c'est vraiment une injustice de mon point de vue.
Varane, donc, c'est le plus titré des footballeurs cette année, hein. Il a gagné Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Il est le seul dans ce cas-là, Modric, il ne gagne pas la finale de la Coupe du Monde. Même si dans les trois du pré-FIFA, c'est pas du tout choquant pour Modric, il le mérite amplement. Mais qu'il n'y ait pas ou Griezmann, ou Mbappé, ou Varane, je suis sidéré. Je vais finir par croire que seuls les journalistes connaissent le football, et donc j'attends le verdict du Ballon d'Or France Football à la fin de l'année, où ce serait étonnant qu'il n'y ait pas un Français dans les trois. Là, je serais vraiment surpris.
Bruno.
Bah oui, c'est choquant évidemment. C'est choquant parce que voilà, il est quand on brille dans les plus grandes finales, qu'on est décisif, qu'on est buteur. Même si c'est l'Europa League, c'est sûr, ça compte moins que la Ligue des Champions. Mais à ce moment-là, faut pas la faire l'Europa League si elle compte pas ou si elle compte pas dans les titres de fin d'année. Et en finale de Coupe du Monde, non seulement il est bon lors de la finale de Coupe du Monde et il marque, mais il est excellent lors de la finale de la Coupe du Monde. Et c'est des matchs qui sont très importants. Dans lequel, par exemple, Ronaldo n'a pas brillé. Ronaldo n'a pas brillé en finale de la Ligue des Champions. En Angleterre, après, il y a peut-être une question. Est-ce que nous, on le voit trop par le prisme franco-français? Parce qu'on est champion du monde? Parce que.
Moi, je pense que les autres, sont au courant, que la France est championne.
Mais sauf que notre équipe de France n'a pas enthousiasmé tout le monde. Elle était championne du monde, mais elle n'a pas plu à tout le monde. Et ça fait le même débat en France. Par exemple, en Angleterre, on est plus choqué de l'absence de Messi dans le trio. Parce que pour tout le monde, Messi est un joueur fantastique et qu'il va tous les ans au moins sur le podium du.
Bah ça s'appelle des
messes. C'est marrant comme le simple fait. Ouais, allez, le refait là, ça y est, bing, là il a glissé l'émission.
Non, parce que là on fait pas. On fait pas le prix.
Camarade de côté.
La passe décisive était quand même magnifique.
Non, alors on fait pas le prix. Non, on le donne à Messi chaque année.
Faillot constant.
Mais le meilleur joueur du monde, c'est vrai que c'est Messi.
C'est-à-dire qu'il n'y a que la voix des journalistes français qui compte. Ceux à l'extérieur, à l'étranger, ont un avis différent. D'accord.
C'est le meilleur joueur du monde dans l'absolu. Après, si on prend saison après saison, est-ce qu'il a été le meilleur joueur du monde cette saison? Réfé, un petit mot quand même.
Mais The Best, ça récompense quoi en fait?
Bah, c'est ça qu'on ne sait pas. C'est déjà la manière d'élire est très très bizarre. Parce
déjà
que
le titre est complètement nul. Hein, soyons honnêtes.
Public, journaliste, entraîneur, capitaine, etc. Donc c'est un collège électoral extrêmement ingérable. Pour moi, on est carrément dans une catastrophe industrielle, un accident industriel de la FIFA qui n'est pas en mesure de mettre en avant sa propre compétition phare et qui semble à la roue de l'UEFA qui venait de désigner exactement le même trio en privilégiant ces compétitions à elle. Donc
c'est ça qui est inquiétant un petit peu pour les joueurs français parce que donc se profile évidemment donc l'élection du Ballon d'Or qui est quand même le prix, le Ballon d'Or France Football, je le précise, qui est quand même le prix le plus important. Et là je suis tout à fait sérieux donc au niveau des distinctions individuelles, mais comme a commencé à le dire Alejandro, il y a d'abord eu le prix UEFA de la saison et le prix UEFA, on a tendance à penser que ça récompense un joueur de Ligue des Champions, mais pas du tout. C'est le même critère que pour le best player, c'est le même critère que pour le Ballon d'Or, c'est-à-dire ça recouvre toutes les compétitions, qu'elles soient en club ou qu'elles soient en sélection. Et là non plus, il n'y avait pas de Français qui étaient dans le trio. Donc c'est un peu inquiétant parce qu'on installe en ce moment l'idée finalement que c'est sans doute Modric qui est le joueur le plus valeureux de la saison. Moi c'est un joueur que j'adore, mais ça n'a pas non plus été le joueur le plus décisif du Real Madrid sur cette saison. Il a été très bon avec la Croatie, mais il n'a pas gagné la Coupe du Monde, donc Olivier, je suis plutôt pour un Français.
Suite, oui, je reviens vers vous. Je signale juste, Guillaume Ploquin me fait signe que Gianni Infantino vient de téléphoner suite aux propos du Réfé. Les droits pour la Coupe du Monde 2022, c'est le double hein, maintenant Réfé. C'est clair pour RFI. Et encore sur trois pays africains, c'est tout. Hein. Vraiment. Le mot de la fin pour vous, François, vraiment 30 secondes sur ce Griezmann. On a parlé du prisme franco-français, que dit-on en Espagne?
Non, mon super, c'est vrai, entre The Best, l'UEFA, tout ça, je peux vous dire qu'en Espagne, il n'y a qu'un seul titre qui compte, c'est le Ballon d'Or. Voilà, c'est le Ballon d'Or de France Football, et c'est lui qui va remettre vraiment la maison, l'église au centre du village, comme on dit. Et je pense que Griezmann, là, a une chance, parce que c'est vrai que tout le monde est choqué ici en Espagne. Alors, je vous cache pas que l'Atlético, ils sont choqués, même au Barça, ils pensent que c'est pas normal. Eux, ils auraient vu Messi, Modric et Griezmann. Je pense, moi, que... Heureusement, j'espère, moi, que... les journalistes de France Football remédier à ça et vont donner le ballon à Griezmann.
De France Football et d'ailleurs tous les journalistes qui votent pour ce prix. Ben oui, bien sûr, revenons à la raison. Allez, on va remercier François David. On vous retrouve très très bientôt. Merci pour votre intervention et on va aller faire un petit tour en Italie.
Radio Foot International.
Olivier Prom.
Dans le calcio, la Juventus caracole déjà en tête, seule, là, cette fois, la seule à avoir 3 matchs, 3 victoires, 7 buts marqués, aucun par Cristiano Ronaldo. Tiens, on en a parlé dans la première partie, il y a quelques minutes. Alors, on dit quoi? On dit que, bon, qu'il n'y a rien de grave. C'est vrai qu'on voit tout le monde marquer, la Juve. On se dit, finalement, Dybala n'a pas marqué non plus. Quand ces deux-là vont se mettre à marquer, la Juve va peut-être réellement devenir un favori pour la Ligue des Champions, comme nous le disait Lionel Messi.
Oui, est-ce que la Juve a besoin de Ronaldo pour gagner le titre en Italie? Non.
Non,
il le gagne tous les ans sans lui. Donc,
depuis
si Cristiano Ronaldo a été recruté 100 millions d'euros pour rejoindre la Juve, c'est évidemment donc pour aller chercher la Ligue des Champions et que c'est là-bas qu'on l'attend. Mais donc si sans lui et sans qu'il marque un but, ils sont déjà en tête. Qu'est-ce que ça va être quand il va commencer à empiler les buts?
Donc la Juve favori de la Ligue des Champions ou en tout cas parmi les 2 ou 3 favoris.
Ces dernières années, ils ont quand même fait 2 finales, hein, une en 2015 et une en 2017. Donc oui, c'est une équipe qui perd très peu de joueurs. Bon là, Buffon, elle a perdu Buffon, mais il y a un débat sur le niveau de Buffon. Donc
la maison de retraite PSG, c'est pas mal. Hein.
Oui, non, mais moi je pense que c'est encore un très grand gardien, mais bon, je vois pas au milieu, ils s'affaiblissent pas. Bon, Higuain, c'est un peu surprenant qu'il s'en aille aussi vite, mais peut-être que c'était pas compatible avec Cristiano Ronaldo. Dybala, c'est un formidable joueur. Donc oui, effectivement, Allegri est un coach demandé par beaucoup de grandes écuries. La Juve sera parmi le Barça et le Bayern et Manchester City, les 4 favoris. Sont là, oui.
Et Ronaldo va se mettre à marquer.
Bah oui, parce que c'est un joueur de match important. Mais c'est peut-être le joueur qui manquait justement à la Juve ces dernières saisons, ces 3-4 dernières saisons, notamment en finale. Le joueur qui peut faire la différence. Et devant, ils ont souvent un peu tâtonné, même s'ils avaient des bons joueurs, mais ils n'avaient pas des grands joueurs de finale. Un mec comme Higuain, par exemple, qui on dit souvent très très bon, mais dans les grands grands matchs, il brille très peu. Donc peut-être c'est le joueur qui leur manquait. Après voilà, il faut rappeler qu'il vieillit chaque année un peu plus et que c'est qu'à un moment donné ça va peut-être s'arrêter. Donc il y a sur le doute en tout cas qui concerne Ronaldo. C'est un peu moins vrai quand on voit la finale, la Coupe du Monde qu'il vient de faire, mais forcément la question va se poser et le choix aussi.
La Coupe du Monde qu'il a fait, bon, enfin bref. Il était peut-être un peu seul avec ce Portugal, mais ça restera pas dans les Alpes. Ça fait partie de ces grands joueurs, mais finalement, mais c'est comme Ronaldo, match, les deux plus grands joueurs de l'histoire.
Il y a eu un grand match contre l'Espagne quand même.
Oui, ouais, moi c'était le premier. Ouais. On est resté sur cette impression. Réfé, un petit mot sur votre ami Ronaldo.
Je dirais que tout de même, il ne marque pas, mais il n'est pas mauvais. Il frappe beaucoup au but, il a eu beaucoup d'occasions, et probablement sa présence libère d'autres joueurs comme Mandzukic qui en profite pour marquer des buts. Donc c'est une Juve qui évolue et Cristiano Ronaldo, il joue pleinement son rôle aujourd'hui, même s'il n'a pas encore marqué.
Voilà pour la Juve. Un petit mot de Naples. On rappelle dans ce classement que le deuxième c'est Sassuolo, le troisième la Fiorentina, quatrième Spal. C'est vrai que quand on regarde le classement du Calcio après 3 journées, c'est assez surprenant. Et à la 5e place, on retrouve Naples. Je veux parler de Naples parce que elle est entraînée cette équipe par Carlo Ancelotti, ancien entraîneur aimé au Paris Saint-Germain, en tout cas par les supporters,
bon, partout
par
les journalistes. Passé, hein, même à la
partout où il est passé.
Peut-être au Bayern.
C'est aussi l'équipe du Sénégalais Kalidou Koulibaly, de l'Algérien Aouzi Goulam, c'est le futur adversaire du Paris Saint-Germain, aussi Naples, dans un groupe très compliqué. Qu'est-ce que vous inspire le début de saison des Napolitains?
Bah, ils ont quand même réussi à renverser l'AC Milan alors qu'ils étaient menés chez eux 2-1. Ils ont gagné 3-2. On sent quand même qu'il y a une ferveur retrouvée autour du Napoli. Alors, c'est les années Sarri hein, qui ont encore relancé tout ça. Carlos s'inscrit dans la continuité. Il lui faut peut-être un petit peu de temps avant de trouver la mayonnaise d'un groupe qui n'a pas énormément changé. Je fais confiance à Carlos et
il y a juste leur meilleur joueur qui est parti à part ça, Jorginho,
oui,
qui était la pierre angulaire du jeu de Sarri, qui touchait 150 ballons par match.
C'est pas un joueur de Carlo, donc il peut
non, mais c'était un joueur de cette équipe là oui. Et la transition entre Sarri et Ancelotti va être compliquée, c'est pas le même jeu du tout.
Non,
donc c'est apprendre une autre manière de jouer et sans son métronome qui, on a vu depuis qu'il est passé à Chelsea, il a battu le record de ballons touchés, 168 ballons touchés en un match, tout passe par lui, tout. Moi, ça va être très compliqué. Après, c'est une belle équipe, hein. Mais
il y a du matos, hein,
bien sûr,
quand même des grands joueurs. Et Carlo, il a toujours trouvé la solution partout où il est passé ces dernières années.
Presque partout.
Dis-moi où il a échoué.
Au Bayern, ça passe pas très très bien passé.
parce qu'il s'est pas adapté forcément à la culture locale ou eux sont pas adaptés à lui, mais sinon c'est pas un échec le Bayern.
Un petit mot, Étienne, sur Naples.
Mais je suis assez d'accord avec Bruno. Moi, ça m'a étonné ce recrutement d'Ancelotti. Pas évidemment donc pour le CV d'Ancelotti qui a gagné à peu près partout où il est passé. Mais Naples, on l'a souvent répété à ce micro, un des plus beaux jeux collectifs d'Europe. On repartait de derrière en permanence. C'est pas le jeu d'Ancelotti, qui est un entraîneur extrêmement pragmatique. Et je suis surpris donc, et je suis curieux de voir comment va cohabiter un groupe qui est resté à peu près le même, comme l'a dit Bruno. Non, en plus avec une perte importante, mais à peu près le même, avec le même fond de jeu et tout ça à la sauce Ancelotti. Pour l'instant, c'est pas encore complètement parti, j'attends de voir. Mais forcément, il y a des bons joueurs, il y a un coach pragmatique qui saura peut-être s'adapter
les
même à ces joueurs.
Ils ont été prêts ils ont lutté jusqu'à la fin avec la Juve, et je pense que l'obsession du Napoli, c'est d'être un nouveau champion d'Italie. Oui. Oui. Je pense pas qu'ils l'ont recruté pour la scène européenne.
Le dernier titre, c'était avec votre autre ami Diego.
Voilà. Et donc, je pense que c'est une obsession locale, et que Carlo, avec son expérience, peut-être que il peut faire gagner ça, essayer d'être champion d'Italie. Je pense que la Coupe d'Europe est accessoire, est secondaire, disons. C'est pas le grand projet du Napoli de Laurentiis. Je pense qu'il veut d'abord être champion d'Italie.
Ils ont peut-être même pas encore l'effectif non plus pour être champion d'Europe.
Le suiveur du PSG que vous êtes à titre professionnel, on ne peut que se réjouir. Vous avez dû en parler la semaine passée, RFA, dans cette émission, le tirage au sort. C'est vrai, ce groupe avec Liverpool, Naples, le Paris Saint-Germain et même l'Étoile Rouge de Belgrade. Que de souvenirs, que de grands noms. On est en Europe, quoi. On est la Ligue des Champions
C'est pas la Ligue Europa. Hein. C'est pas un tirage de Ligue Europa, quoi. Ah ouais, c'est de la vraie Coupe d'Europe. Ça commence en plus par le plus dur. Le déplacement contre le favori le 18 septembre à Liverpool.
Donc il faudra être prêt assez vite.
Et ils seront pas prêts.
Qui ça?
C'est inquiétant.
À la
vous
nous ouvrirons pas le débat, oui. Le débat.
Et ben on repart pour une heure d'émission.
La dame est à l'écoute, elle note.
Ils seront pas totalement prêts, on va dire.
Bon voilà, en ce qui concerne en tout cas Naples, en ce qui concerne l'Italie, en ce qui concerne Ronaldo, en ce qui concerne l'Espagne, il est grand temps de consacrer cette petite minute à l'équipe de France. Ah, c'est beau. C'était bien le 15 juillet, Dominique Sévrac. Si on pouvait y être encore, ça voudrait dire qu'on a toutes les vacances à venir.
Ah oui.
Les Canadiens sont derrière nous, c'est ça qui est ballot. De retour à Clairefontaine, hier, l'équipe de France est sur le terrain jeudi à Munich face à l'Allemagne, puis dimanche au Stade de France contre les Pays-Bas. Là, ce sera la fête quoi qu'il arrive, parce que le public, des Bleus, ne les a pas encore vus jouer sur le sol français depuis leur titre. 6 semaines, 7 même, après le sacre en Russie. C'est donc la rentrée. On écoute le sélectionneur Didier Deschamps.
À chaque rassemblement, il y a toujours ce plaisir, cette joie d'être là. Il y a beaucoup d'échanges, ils étaient très contents de se retrouver là, je les laisse récupérer. Et puis bon, le match, premier match, il vient vite aussi, donc face à cette équipe d'Allemagne. On va être dans le vif du sujet, alors il y a un côté, il y a qu'un mois et demi, hein, on était champion du monde, c'est proche. Mais il y a la réalité du terrain, ils ont fait quelque chose de sublime, mais... Il y a une nouvelle aventure avec cette Nation League, et puis après, à partir de mars, les qualifications pour l'Euro. La vie continue, et se nourrir, se servir de ce que l'on a vécu cet été en Russie.
Voilà Didier Deschamps. Alors il a l'expérience, Didier Deschamps, il sait ce que c'est, lui, d'être champion du monde et de devoir rejouer ensuite. Peut-être que la génération 98 était un peu plus âgée, on la voyait quand même belle, celle-là on la voit très très belle, tellement elle est jeune. Il faut se remettre les mains...
Elle l'avait réussi, lui, puisqu'elle était championne d'Europe deux ans plus tard. Alors pas forcément immédiatement, elle n'avait pas été brillante, notamment, je me souviens, j'étais en Islande juste après le titre de champion du monde pour un match où entre la Marseillaise et le terrain, ils étaient morts de rire, ils pensaient pas vraiment à jouer au football, et il y avait encore les souvenirs de la Coupe du Monde, mais ils ont quand même réussi avec un autre sélectionneur, avec en corrigeant deux trois petites choses dans le jeu, à être championne d'Europe. Donc voilà, c'est pas forcément les mois qui viennent, qui peuvent être durs, qui vont nous indiquer ce qui va se passer au championnat d'Europe 2020.
Étienne, c'est vrai que c'est... On les sent tellement encore sur un nuage, on les imagine en tout cas encore sur un nuage. Ils ont été en vacances, la plupart, même s'ils rejouent, sont rentrés il y a quoi, 3 semaines. Voilà, il faut évacuer, il faut se dire. C'est ça le problème du sportif de haut niveau, c'est qu'une compète en chasse une autre.
C'est sûr, mais je pense comme Dominique, cette équipe de France, elle est championne du monde, et quand on l'a vu jouer, on sait qu'elle a une marge de progression. Donc on se dit
c'est discutable,
évidemment l'Euro 2020 c'est un vrai objectif et que cette équipe là elle devrait être naturellement plus forte dans deux ans. Et quand on voit et quand on sait que cette équipe là elle vit bien ensemble comme on dit dans le football et que les joueurs sont contents de se retrouver, je pense qu'il y a deux ans avec à peu près le même groupe de joueurs et donc cette équipe va être pour moi de plus en plus forte et sera allez peut-être championne d'Europe dans deux ans. En tout cas, c'est le mal que je lui souhaite.
Pour l'instant, elle doit retrouver Clairefontaine. On les a vus assez joyeux hier. Ils sont contents de se retrouver. C'est ça peut-être la force. Ce qui fait qu'ils vont se remettre dans le sens de la marche. C'est qu'on sent, comme on l'avait senti pendant ces quelques semaines de Coupe du Monde, on sent un vrai groupe, une vraie complicité. Il n'y a pas d'histoire à raconter. Je me souviens du confrère Damien Degore, le lendemain de la finale, qui préparait un très très long article. D'ailleurs, le Parisien a dû faire le même sur ces 6 ou 7 semaines de vie et qui disait, il n'y a rien de croustillant vraiment. Tant tout s'est a priori bien passé et ça se ressent, ça doit aider.
Bah, en tout cas, c'est ce qui en a ressenti, que le groupe vivait bien et qu'ils s'entendaient bien et qu'ils kiffaient entre de passer du temps ensemble, ce qui est parfois rare dans un groupe. Et on a toujours la petite question de savoir s'il va y avoir un moment de décompression, de relâchement après une victoire comme ça. En 98, il y avait certains jeunes qui avaient souffert, notamment Thierry Henry, qui avait passé quasiment un an chez les Espoirs. Il avait des soucis en club aussi. On sait que Deschamps a connu tout ça, donc il peut les prévenir. Et quand on voit le début de saison individuel des différents champions du monde, quand on voit Mbappé qui revient et qui marque directement, quand on voit Hugo Lloris qui est décisif sur ses premiers matchs, quand on voit Pogba qui marque son premier match, quand on voit tous ces joueurs qui brillent,
Ousmane
Dembélé, qui est déjà buteur avec le Barça, ça me surprend même en fait. On a l'impression qu'il surfe un petit peu sur cette victoire en Coupe du Monde. Voilà, moi je pense que on est parti un petit peu comme en 98 avec une équipe qui peut régner pendant 4 ans quoi.
Mathieu Dieu qui marque avec la Juve. Non, c'est vrai, il est là, hein, Guillaume Ploquin. Oula, attention, hein, c'est la rentrée aussi. Et à fond.
Parmi les joueurs trentenaires, il y a des solutions. Giroud, si jamais il doit disparaître d'ici l'Euro 2020, il y a Mbappé qu'on peut recentrer dans l'axe et à droite, il y aura des solutions. Si jamais Blaise Matuidi, qui lui aussi a dépassé les 30 ans, il y a des problèmes. Tolisso a montré pendant cette Coupe du Monde qu'il était une solution peut-être. Donc voilà. Il y a quand même du réservoir sur et si Adil Rami n'est plus sur le banc, je pense qu'ils arriveront à survivre.
Oui, mais on sait que souvent le point faible de toutes ces équipes qui ont si bien réussi, c'est de pouvoir commencer à bouger des joueurs qui sont devenus presque intouchables.
C'est un groupe qui est très jeune.
Qui ont du mal à se renouveler justement parce que les joueurs qui y sont difficiles à sortir.
Mais ce problème se pose pas encore pour l'équipe de France.
Parce que ça peut se poser dans quelques temps. Parmi les
cadres, on cherche. En effet, à part Matuidi et Giroud, quels sont les joueurs qui sont menacés donc d'ici l'Euro 2020? Il n'y en a pas.
On rappelle qu'il y a un petit nouveau qui a été appelé, puisqu'il y a les forfaits en cascade chez les gardiens. Benjamin Lecomte, il est le seul non-champion du monde finalement, et c'est le gardien de Montpellier, 27 ans, 160 matchs en Ligue 1 avec Costil, effectivement. On rappelle que ce sera face à l'Allemagne, puis face aux Pays-Bas, deux matchs à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Vous retrouverez Antoine Grenier, champion du monde, lui aussi, c'est l'homme des Bleus chez nous. Il sera avec Eric Chorin à Munich jeudi, et moi j'aurai la chance de le retrouver. Ça nous rappellera des souvenirs de Coupe du Monde, fera peut-être un peu moins chaud au Stade de France dimanche pour commenter les Pays-Bas. Je voulais vous demander ce qu'était la Ligue des Nations, mais je vais vous épargner ça, Étienne Moati, parce que je pense que ce n'était pas un service à vous rendre.
Non, mais je peux vous le dire en quelques mots. Et une compétition dont on se moque comme ça, mais finalement qui remplace des matchs amicaux, donc ça devient des matchs de compétition. Pas essentiel, mais c'est toujours mieux.
Bon, ben voilà, vous avez tout compris.
Il a un talent.
Il est parfait. Hein.
En tout cas, ce sont deux beaux matchs à venir, c'est sûr.
Même la concision.
Et en ce qui nous concerne, on remercie Guillaume Ploquin, on vous remercie tous. David Finzel est déjà levé pour aller débriefer tout ça. On retrouve la dame demain. Ah oui, elle est là.
Avec son cartable.
C'est la rentrée avec son cartable. Et un stylo 4 couleurs, elle m'a dit dedans.